France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Paris s'apprête à accueillir le sommet sur l'intelligence artificielle. Les géants de la tech, eux, ambitionnent de franchir un gap technologique et de passer de l'IA dite faible à l'IA dite générale. Mais en a-t-on une définition consensuelle ? Cette forme d'IA, plus ambitieuse, vise à surpasser les performances du cerveau humain. Une super intelligence autonome, capable de s'adapter à tout. L'idée est en germe dans tous les grands laboratoires de recherche. Selon Sam Altman, le patron d'OpenAI, il paraît même que ce serait pour cette année. Tandis que Donald Trump a annoncé injecter 500 milliards de dollars dans le secteur et que la Chine est entrée en course et en bourse, l'avènement de l'IA forte est-elle scientifiquement plausible et les inquiétudes qu'elle suscite sont-elles fondées ? De l'IA faible à l'IA forte, une paranoïa. Jada Pistelli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe spécialisée sur l'éthique de l'intelligence artificielle et éthicienne de l'IA chez Eugene Face, une start-up qui fait de l'IA open source. Jean-Gabriel Ganassia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'informatique à la Faculté des sciences de Sorbonne Université, membre senior de l'Institut universitaire de France et l'auteur de l'IA expliquée aux humains aux éditions du Seuil. Et Axel Sipel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur des mines, auteur conférencier dans le domaine de l'IA. Votre dernier livre, Voyage au bout de l'IA, ce qu'il faut savoir sur l'intelligence artificielle, aux éditions Deux Boucs Supérieurs, vient de recevoir le prix Robert Val. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Et merci à vous d'être avec nous à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur notre feed podcast sur l'appli Radio France. N'hésitez pas non plus à nous retrouver sur Blue Sky. On publie pour vous de nombreuses ressources pour compléter votre écoute. C'est sur notre compte @sciencesqfd. Qu'entend-on par IA faible, forte ou générale ? Et ces deux dernières sont-elles des technologies en pleine accélération ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais d'abord, les machines électroniques sont-elles capables d'avoir des pensées artificielles ? La question est posée en 1962, c'est notre archive du jour.
En ce qui me concerne, j'appellerai véritablement apprentissage pour une machine la possibilité de passage à des problèmes d'un autre niveau.
Mais voilà.
Par exemple, si une machine à additionner, et tout le monde sait que nos machines actuelles sont à additionner.
Mais oui.
Eh bien, si cette machine, connaissant la méthode pour additionner, arrivait à découvrir elle-même la table de Pythagore et la table de multiplication, et si elle arrivait à multiplier elle-même, à s'apercevoir qu'il faut faire des décalages, etc., eh bien, elle aurait véritablement appris quelque chose.
Évidemment.
Ça, c'est le second sens dont vous parliez.
À coup sûr.
C'est l'acquisition de catégories nouvelles, pour reprendre le terme de tout à l'heure. En fait, dès à présent, nos machines sont capables d'un certain apprentissage. On a déjà fait des machines capables d'apprendre à jouer à certains jeux élémentaires dérivés du jeu de dames. Peut-être même est-on arrivé à apprendre à une machine à jouer convenablement aux dames, devant un partenaire de taille déjà assez respectable. Aujourd'hui aussi, on essaie d'apprendre aux machines à traduire les langues. Et là, les efforts sont encore loin d'être terminés, et souvent les résultats sont très décevants.
Un extrait de l'émission La Science en Marche sur la RDF en 1962. Donc apprendre à jouer aux dames, traduire les langues. Jean-Gabriel Ganassia, 63 ans plus tard, tout ça pour les IA, c'est un jeu d'enfant.
Alors, un jeu d'enfant, pas tout à fait, c'est un jeu, mais les jeux sont importants en intelligence artificielle. Le pionnier de l'intelligence artificielle, celui qui a donné à sa définition au monde, John McCarthy, disait que c'était les petites mouches hein, à partir desquelles on fait les expériences en biologie. Hein. C'est-à-dire que ça joue un rôle central pour tester de nouvelles théories. Effectivement, très tôt, en intelligence artificielle, on a essayé de faire des machines qui jouent aux échecs, et surtout, donc, on a fait de l'apprentissage à partir de 1959, par renforcement. Ce sont des techniques qui existent toujours, hein, et vous avez entendu parler ces performances de ce système chinois sont dues en grande partie au fait qu'on utilise plus d'apprentissage par renforcement dans le système. Donc ce sont les mêmes techniques qui ont été introduites donc en 1959 par quelqu'un qui s'appelle Arthur Samuel, qui avait commencé à faire une machine qui jouait un jeu de dames un peu particulier, enfin une variante du jeu de dames, et il améliorait de façon conséquente les performances de ce jeu avec de l'apprentissage.
Giada Pistilli, pour compléter l'écoute de cette archive, et avant de préciser ce que sont IA faibles, fortes ou généralisées, on peut voilà, commencer par éclaircir ce qu'est l'intelligence artificielle, ce domaine scientifique.
Oui, c'est en effet un domaine tout entier parce qu'on a tendance à parler d'une intelligence artificielle ou deux intelligences artificielles alors qu'il s'agit plutôt de systèmes. Et en effet, quand on parle d'IA, c'est plutôt un domaine scientifique très très vaste, bah, qui d'ailleurs a accueilli aussi des gens comme moi qui ont plutôt un profil en philosophie parce qu'en effet, on peut avoir des neuroscientifiques, des informaticiens, de la linguistique computationnelle, de la psychologie, il y a vraiment de tout. Et je pense que c'est ça aussi l'avantage de travailler dans un domaine qui, oui, est à la base c'est un domaine informatique, mais qui pose énormément de questions, bah, notamment sur l'intelligence, sur qu'est-ce que c'est un problème, sur plein d'enjeux dont j'imagine on parlera.
Par rapport aux étapes historiques, on vient de parler des pionniers, des fondamentaux. Axel Cipel, on dit que voilà, dans l'histoire de cette discipline scientifique, on parle de l'hiver de l'IA, hein, de la fin des années 50 jusqu'à la fin des années 80, et puis il y a les travaux de Yann LeCun.
Alors, en effet, qui dit hiver dit renouveau, printanier sans doute. Effectivement, l'intelligence artificielle a connu plusieurs formes d'hibernation, de mise en pause, puisque des premiers travaux en fanfare, hein, d'accord, qui ont démarré, comme vient de le dire Jean-Gabriel, dans les années 50. D'un point de vue opérationnel, informatique, on va dire les balbutiements de l'informatique à l'époque. Beaucoup de promesses et puis des crédits demandés et puis des promesses déçues comme à chaque fois avec cette rhétorique de la promesse, et qui dit crédit en berne dit mise en pause, et ensuite la recherche, parce que c'est quand même une discipline mathématique, informatique en particulier, et donc la recherche se poursuit un peu en sous-marin. Et arrive à de nouvelles trouvailles, des découvertes tout simplement. Et donc on a à nouveau ce phénomène de promesses et d'exploration finalement de ce domaine scientifique. Alors effectivement, vous citez Yann LeCun. Yann LeCun est un chercheur en IA extrêmement connu, ainsi que d'autres, Geoffrey Hinton, Yoshua Benjo, hein, tous les trois ont eu le prix Turing en 2018.
L'équivalent du prix Nobel.
C'est ce qu'on dit, voilà.
Les sciences informatiques.
Et effectivement, ces trois personnes sont des chercheurs réputés dans cette discipline qui ont creusé ce qu'on appelle le deep learning, c'est-à-dire l'apprentissage dit profond, ça veut rien dire, l'apprentissage par la méthode des réseaux de neurones. Et ils ont vraiment persévéré. C'est ça leur très grande force. Et vraiment, ils y croyaient, ils ont persévéré. Tout le monde disait ça marchera pas. D'ailleurs, ça se prouvait, puisque les ordinateurs à l'époque n'étaient pas assez puissants. Et donc, ça ne marchait pas. Puis on va continuer. Et au bout d'un moment, la puissance de calcul aidant, ça s'est mis à fonctionner.
Jean-Gabriel Ganassia.
Oui, ce qui est important, c'est de préciser un tout petit peu les dates, parce que je crains que les auditeurs soient un peu perdus, puisqu'on leur dit ça commence dans les années 50, puis ensuite c'est l'hiver, et puis ça renaît. C'est pas du tout comme ça. Ça commence effectivement à la fin des années 50, c'est précédé par une discipline importante qui est la cybernétique. Les réseaux de neurones formels datent de 1943, c'est-à-dire bien avant. Et puis, il y a eu les premiers résultats extraordinaires, la démonstration automatique de théorèmes. Et puis ensuite, effectivement, il y a eu l'apprentissage. Et puis, il y a eu une petite inflexion, mais assez légère. Quand on regarde les publications, par exemple, il y a juste parce que, effectivement, il y a eu d'abord les déceptions sur la traduction automatique, sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, parce que c'est étonnant. Hein, on pensait que les méthodes de l'époque n'étaient pas adaptées. On s'est rendu compte qu'il fallait, c'était les mêmes méthodes, mais qu'il fallait généraliser. Donc, il y a eu ça. Puis après, il y a eu donc surtout des déceptions parce qu'on a dit que les machines seraient championnes du monde aux échecs très rapidement. Et puis, bon, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Il y a eu une petite baisse, mais on était pendant ce temps un peu sombre, entre 1965, disons, et 1980, 79, il y a eu énormément de choses qui ont été faites. Et en particulier en France, il y a eu beaucoup de progrès en traduction automatique. Puis ensuite, il y a eu un éveil dans les années 80, au début des années 80, un enthousiasme. Et puis ensuite, donc c'était ce qu'on appelait les systèmes experts. Puis ensuite, on a fait de l'apprentissage machine. Il y a eu les premiers réseaux de neurones. Et puis après, il y a eu encore de l'apprentissage, mais c'est les réseaux de neurones donc qui étaient considérés comme des techniques un peu obsolètes. Et puis ensuite, il y a eu effectivement la renaissance des réseaux de neurones en 2013 à peu près. Donc vous voyez, c'est une histoire cyclique, hein, et qui est pleine de revirements. Et puis surtout, on est toujours surpris. Hein, et c'est ça qui est extraordinaire avec la technologie, c'est qu'elle ne correspond jamais à ce qu'on avait imaginé.
Mais en tout cas, merci beaucoup Jean-Gabriel Ganassia d'apporter de la nuance dans cette histoire-là, pour continuer à comprendre comment on est arrivé aujourd'hui à fantasmer l'avènement d'une intelligence l'intelligence artificielle est forte. Il faut aussi dire que, en fait, à partir de 2017, avec la révolution Transformer, c'est un gros tournant. Giada Pistilli, hein, c'est à ce moment-là d'ailleurs que l'IA sort des laboratoires avec ce type de modèle. L'IA génère le langage humain.
Oui, bah tout à fait. En fait, c'était un peu à ce moment-là que les IA commencent vraiment à sortir des laboratoires, et c'est à ce moment-là où les personnes commencent à en faire un peu l'expérience. Pas de la même façon qu'avec ChatGPT en 2022, où vraiment c'était grand public, et là on s'est dit « Ah, mais en fait, voilà à quoi ressemble l'intelligence artificielle », bien que évidemment il y en avait aussi auparavant d'autres types de systèmes, mais c'est vraiment l'architecture Transformer, en effet, qui a marqué un peu la généralisation, en effet, et la facilité avec laquelle on pouvait reproduire la même architecture, et donc de faire des nouveaux systèmes et de nouveaux développements. Après, je laisserai les spécialistes techniques en dire un peu plus, mais c'est vrai que c'est là où il y a eu une première approche de se dire « Ah bah voilà à quoi ça ressemble en production, comme on dit, voilà à quoi ressemblent des produits ». Il commence à avoir aussi des industries qui commencent à rentrer dans le champ justement d'utiliser effectivement des systèmes d'IA dans leurs produits, etc., etc.
Mais il y aurait en tout cas trois stades de l'intelligence artificielle. Pour commencer avec l'IA faible, Axel Cipel, pour faire un résumé, l'IA faible, grosso modo, c'est celle qui nous entoure. C'est les IA génératives, justement.
On pourrait même aller plus loin. On dirait que l'IA faible est la seule intelligence artificielle qui existe, en vérité. D'accord
Oui, concrètement. C'est-à-dire qu'ensuite, il y a les autres qui sont hypothétiques, en effet.
Ouais, c'est ça. Vous pouvez fantasmer. Alors, ensuite, ça n'empêche pas de poser des concepts, éventuellement qui n'existent pas, de les définir, d'étudier leurs propriétés ou comment faire pour y parvenir. Mais pour l'instant, on va en parler, je pense, tout de suite après, mais par rapport à l'autre type d'IA, on va dire, l'IA forte, qui serait super intelligente, consciente d'elle-même et tout ça, Terminator, dans les films de science-fiction, il existe, mais sinon, il n'existe pas. Bon, alors, l'intelligence artificielle, donc, ensemble de techniques mathématiques appliquées, informatiques, qui ont pour vocation de reproduire, simuler, émuler des capacités cognitives. Voilà, on peut définir ça comme ça. Et finalement, ce sont des programmes informatiques qui tournent, en effet, qu'on peut intégrer dans des systèmes ou laisser juste sous forme d'informatique, Internet, voilà, et qui rendent certains services, qui rendent opérantes certaines fonctions dont on aurait pensé qu'elles étaient l'apanage de l'humain, voire du vivant. Eh bien, en fait, non. Voilà. Par exemple, la reconnaissance de forme par ordinateur ou alors la production de textes qui font sens pour nous.
Ou par exemple, gagner, en effet, un jeu d'échecs en 97, au jeu de Go en 2016, en effet. Jean-Gabriel Ganassia, donc cette IA faible qui est opposée aux IA fortes et IA générales qui sont, en effet, on fait bien de le dire dès maintenant, très hypothétiques. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on entend par ces deux formes d'intelligence artificielle hypothétique?
Comme l'a très bien dit Alex, c'est très clair. Il n'y a qu'une seule IA qui existe, c'est l'IA faible. Parce que c'est une discipline empirique. Ça veut dire qu'on va prendre des facultés mentales et on va essayer de les reproduire sur des machines, éventuellement de les confronter avec les hommes, ce que les hommes font. Et puis, si ces simulations fonctionnent, on les met dans des technologies, ça rend des services considérables. Le monde aujourd'hui est construit à partir de cela. Vous savez que le web, c'est le couplage d'un modèle de mémoire au réseau Internet. Le réseau Internet, ce sont des télécoms classiques. Le modèle de mémoire s'appelle l'hypertexte. Ça a été conçu en 1965 avec des techniques d'intelligence artificielle. Et puis c'est de l'intelligence artificielle, c'est une simulation d'une faculté cognitive. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle telle qu'elle existe. Et puis, il y a eu des ambitions un peu démesurées, alors soit d'auteurs de science-fiction qui ont dit, voilà, on va avoir une machine qui va avoir une conscience, soit des réflexions de philosophes. Et la notion d'IA forte est très intéressante parce qu'elle était introduite par un philosophe qui s'appelle John Searle, qui en 1985, dans un livre du cerveau au savoir, a expliqué que les théories de ses collègues, qui étaient les cognitivistes, n'étaient pas fondées. Alors, ces cognitivistes, ils pensaient qu'effectivement, on pouvait tout reproduire avec des échanges d'informations. C'était des personnalités comme Jerry Fodor, par exemple. Et ils pensaient qu'il y avait un langage du mental. D'ailleurs, ils appelaient ça le mentalais. Et lui, il disait non, c'est pas possible. Et il a imaginé une expérience de pensée qui est extraordinaire, c'est l'expérience de la chambre chinoise, dans laquelle on dit, vous imaginez que vous avez un Américain qui, comme les Américains, ne savent parler qu'une seule langue, l'anglais, et on le met en Chine, dans une prison, hein, ça nous fait écho au monde d'aujourd'hui, et là, on lui donne des carreaux de céramique avec des caractères chinois, et il a un grand livre sur lequel on lui dit, si tu veux manger, il faut que tu présentes d'autres carreaux de céramique. Alors, il s'agite de l'extérieur des Chinois, envoie des messages, et puis ils ont la machine qui répond, ils disent « Ah bah elle parle chinois, elle comprend le chinois ». Et il dit « Bah non, est-ce que l'Américain apprendra le chinois, d'après vous ?» Bah il dit non. Il dit pourquoi ? Parce que ce qu'on fait avec une machine, c'est de la syntaxe. Or, le sens, eh ben, c'est autre chose et on n'arrive pas à le mettre, en tout cas avec les méthodes classiques de l'intelligence artificielle. Et donc il opposait l'IA faible, qui était celle des ingénieurs, qui donnera plein de résultats, comme cela, et puis l'IA forte, qui est cette idée que tout d'un coup la machine va comprendre. Et il disait « Eh ben ça, c'est impossible ». Alors, c'est une question ouverte. Ce qui est curieux, c'est que quelques années plus tard, des ingénieurs, des roboticiens ont dit « Ah ouais, mais nous, on est des champions, on va vous réaliser cette IA forte ». Alors, c'est assez cocasse, hein, parce que alors, il faut voir que Searle n'était pas du tout contre l'intelligence artificielle, au contraire, hein, il s'enthousiasmait, mais il pensait qu'on n'arriverait pas à la conscience. Et les travaux de Searle sont au centre de beaucoup de réalisations en intelligence artificielle, en particulier, c'est un spécialiste, donc philosophe du langage, il a introduit des actes de langage, et les agents intelligents, les multi-agents, échangent avec des protocoles qui sont construits à partir des théories de Searle.
Ben voilà, donc c'est l'imitation, l'imitation du langage. Diada Pistilli, voilà cette IA forte versus IA générale. Quelle différence entre les deux, rapidement, pour ces... d'y voir plus clair.
Bah, je dirais que c'est vrai qu'il y a eu énormément de définitions. Après, la philosophie sert aussi à donner un peu plus de définitions et de décrire des termes. Je dirais en effet que jusqu'à peut-être transformer approprié, on parlait plutôt de IA faible versus IA forte. Et puis, on a commencé à parler justement d'intelligence artificielle générale parce que, bah, comme c'était rappelé tout à l'heure, on avait des systèmes qui étaient de plus en plus généralisés. Mais les définitions, encore une fois, bah, il n'y a pas tout le monde qui est d'accord là-dessus parce que chacun a un peu sa définition à lui. Donc, ça peut être en effet une intelligence artificielle, un système qui a conscience de soi. Ça peut être un système qui arrive général dans le sens où il arrive à adapter en fait toutes les tâches qu'il est capable de faire à chaque fois à son environnement, à une nouvelle problématique sous laquelle il n'a pas été entraîné. Ça, c'est, j'imagine, peut-être la définition peut-être sous laquelle on a un peu plus de consensus. Mais dans les détails, qu'est-ce que tous ces termes dans l'ensemble veulent dire ? Donc, conscience, problématique, environnement même, est-ce qu'on parle d'un environnement informatique ? Est-ce qu'on va parler plutôt d'un environnement même physique ? Parce que les êtres humains, aussi les enfants, ils apprennent grâce aussi aux stimuli qu'ils ont à partir de leur environnement. Ça peut être à partir de un apprentissage, on va dire, d'imitation quand ils sont aux côtés de leur famille, leurs parents. Puis ensuite, petit à petit, l'environnement, tous les signes, les gestes, les objets. Et donc, est-ce que c'est l'environnement qu'on parle juste un environnement psychique ou un environnement physique, bah ça reste un peu à déterminer.
Voilà, l'idée de l'IA générale, c'est que les machines ne seront plus spécialisées dans une seule tâche, mais adaptées partout, pour tout. Alors, serait-il possible de mettre au point des systèmes capables de raisonner, de contextualiser, d'éditer leur propre code et de comprendre, d'apprendre n'importe quelle tâche intellectuelle qu'un humain peut réaliser ? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triot.
En direct sur France Culture, avec un jingle composé par une intelligence artificielle, une voix de synthèse générée par une IA, nous parlons du futur de l'intelligence artificielle, enfin du futur très hypothétique, puisque nous faisons la distinction entre IA dite faible, forte et généralisée. On vient de voir que les IA dites faites sont fondées sur un apprentissage statistique, supervisé ou non, comme ChatGPT, DALL-E, enfin toutes les formes d'IA génératives qui sont limitées par les données d'entraînement qu'on leur fournit. Puis, il y a l'IA forte qui, elle, vise à créer des machines qui auraient la subtilité du cerveau humain couplée avec la performance et la puissance de calcul de l'IA telle qu'elle existe aujourd'hui. Et puis, on arrive à cette date. C'est des experts en 2023, hein, plus de 1000, des experts en technologie qui appellent les entreprises d'IA à cesser de former pendant au moins 6 mois des programmes plus puissants que GPT-4, hein, la dernière version de ChatGPT. Ils disent, les systèmes d'IA dotés d'une intelligence rivalisant avec celle de l'homme, je cite, peuvent présenter des risques profonds pour la société et l'humanité. Axel Cipel, que pensez de telles déclarations ?
Le premier réflexe que j'ai face à ce genre de lettre ouverte, de moratoire proposé, c'est qu'il me semble assez synonyme d'hypocrisie, hein, tout simplement. Vous savez, c'est comme dans le Don Juan de Molière, hein, c'est un art de qui l'imposture est toujours respectée, et quoi qu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle. Eh bien, osons. En fait, c'est très lié à la notion, finalement, de progrès technologique, et donc proposer un arrêt. D'ailleurs, on se demande d'ailleurs, en fait, c'est impossible, hein, puisqu'en fait, ça voudrait dire une entente globale et que l'entièreté de l'humanité suive ces préconisations. Il y a beaucoup d'exemples qui montrent que ça n'a jamais été le cas depuis que l'humanité se promène sur la Terre. Ce qui est aussi assez surprenant, c'est les signataires, hein, de ce type de moratoire. Certains grands hommes d'affaires extrêmement réputés et très riches qui signent en disant oui, c'est très dangereux, il faut arrêter. Et d'un autre côté, qui en profitent pour monter leur propre boîte pour faire de l'intelligence artificielle, qui est si dangereuse qu'il faudrait arrêter, etc. Donc vous avez quand même une espèce de cercle vicieux, on en revient à un vice, hypocrisie, d'accord. Voilà ce que je peux dire, je laisse la parole à...
Jada Pistilli, je vous voyais réagir.
Oui, ben, je suis tout à fait d'accord, c'est vrai que je pense qu'il y a un vrai intérêt aussi géopolitique là-dedans, et un vrai intérêt, parce que chaque fois qu'on parle de technologie, il ne faut pas oublier qu'on parle aussi de pouvoir, là je vais pas trop citer tous les philosophes qui disaient ça, bah, au passage Nietzsche, mais c'est vrai que qui dit instrument technologique dit aussi concentration de pouvoir, et là où c'est intéressant, c'est de voir qu'en effet, comme le rappelait aussi Axel, c'est que à chaque fois qu'on a des espèces de moratoires de ce type, il y a quand même des intérêts cachés derrière, et moi ce qui me gêne là-dedans, c'est on va dire le stretch dans un sens, de dire que ça va poser un risque sur l'humanité d'aller aussi loin, de faire peur. Ça me rappelle un peu un espèce de discours un peu hobbesien, de se dire, ah ben, en fait, c'est un espèce de léviathan, c'est quelque chose qui va devenir tellement puissant que nous sommes les seuls qui peuvent le contrôler. Donc faites-nous confiance, parce que à chaque fois que, si on arrive, s'il y a quelqu'un qui doit développer l'intelligence artificielle générale, c'est nous, donc faites-nous confiance, mais nous sommes les seuls à qui vous pouvez faire confiance. Donc c'est une espèce de enjeu vraiment de pouvoir, de garder toute la concentration de pouvoir autour de soi, et donc en effet ça revient à être à chaque fois dans les mains de très peu de gens et très peu d'entreprises.
On est sur de la pure com stratégique, finalement, Jean-Gabriel Ganassia, pas de percée scientifique en vue.
Alors moi j'appelle ça les pompiers pyromanes, c'est-à-dire que le paradoxe, c'est que ce sont ceux-là même qui font l'intelligence artificielle, qui vous expliquent qu'elle est dangereuse. Là, c'est paradoxal. Hein, et on peut se dire, un fabricant de tabac qui va vous dire que le tabac est dangereux, on est d'accord, le tabac est dangereux, mais on se dit, mais pourquoi lui nous dit ça? Eh bien, eux nous le disent en permanence. Et il faut bien savoir que cet appel au moratoire en 2023 n'est pas le premier et n'est pas le dernier. Vous en avez eu beaucoup auparavant, et vous en avez beaucoup après. Hein, en 2024, par exemple, des anciens membres d'OpenAI nous expliquaient qu'ils estimait à 70% le risque de disparition de l'humanité avec l'intelligence artificielle. Alors on se demande d'ailleurs comment ils font pour mesurer 70%. Hein, et il y a même un Suisse extraordinaire qui nous a expliqué qu'il était en train de fabriquer une horloge, comme les Suisses, hein, ils ont l'habitude, qui compte, c'est un compte à rebours avant la fin du monde. Alors tout ça n'est
l'horloge
pas
de l'apocalypse.
Donc, c'est exactement ça. Hein, alors tout ça n'est pas sérieux, il faut se demander pourquoi. Et là, je suis avec Derko et Jada, il y a des enjeux politiques. Mais il faut aussi regarder les arguments eux-mêmes, hein, parce qu'ils nous disent... Ah ben oui, c'est parce qu'on est en train de réaliser une intelligence générale. Et je voudrais revenir là-dessus, parce que ça laisse entendre que l'intelligence serait une substance que l'on peut accumuler. Or, ça n'est pas ça. Le concept d'intelligence, tel qu'il a été introduit à la fin du 19e, hein, par les philosophes positivistes, hein, qui voulaient simuler les facultés cognitives, ben, ça ne se réduit pas simplement à quelque chose qu'on puisse mesurer. Hein, le QI, hein, c'est une évaluation qui est fort discutable du point de vue scientifique, mais ce qu'on sait, c'est que l'intelligence, c'est extrêmement varié. Moi, je peux vous dire, hein, je réalise que j'ai eu... plus de 50 étudiants qui ont fait leur thèse sous ma direction au cours de ma carrière. Et il n'y a pas deux intelligences pareilles. C'est ça d'ailleurs ce qui fait la richesse de ce métier. Parce qu'il y a les plus imaginatifs, les plus créatifs, les plus travailleurs, les plus rigoureux, etc. Et bien, on est tous différents. Et les sciences cognitives aujourd'hui, d'ailleurs, nous le montrent de façon très concrète avec les techniques d'imagerie fonctionnelle cérébrale. Donc ça n'est pas fondé. Je crois qu'il faut le répéter. Je me permets de le redire parce qu'il y a beaucoup de malentendus sur ce point.
Et j'en
insiste un coup sur cette question, d'ailleurs, puisqu'en effet, les sciences cognitives qui tentent depuis plus d'un siècle de cerner les composantes fondamentales de l'intelligence humaine, mesurer l'intelligence d'une machine, selon quels critères? Ça, c'est un peu le nœud du problème, Axel Cipel.
Alors oui, c'est un problème, effectivement, mais qui est plurifactoriel, parce que déjà, comme il vient d'être rappelé, on pourrait déjà se demander qu'est-ce que l'intelligence? On parle beaucoup d'intelligence artificielle là depuis le début de cette émission, mais qu'est-ce que l'intelligence? C'est extrêmement compliqué à définir. Beaucoup de définitions, enfin de caractéristiques qu'on pourrait évoquer. Donc du coup, tenter de la reproduire sur des artefacts informatiques et de la mesurer. Alors j'aime bien en tant qu'ingénieur le côté mesure, hein, d'accord? C'est on va faire une mesure, c'est quelque chose qui est rigoureux scientifique. Il faut pas oublier malgré tout que ça reste une construction, c'est basé sur une idée. Jean-Gabriel vient d'évoquer effectivement le QI, hein, d'accord. Et alors qu'est-ce que c'est que le QI? Eh ben c'est une mesure, c'est un scalaire, hein, d'accord. C'est sur un axe unidimensionnel sur lequel on prétendrait projeter et réduire en fait l'ensemble des facultés de l'intelligence. Donc c'est un réductionnisme, hein, soyons clairs. Alors pour revenir sur la question de la mesure des IA, eh bien il y a le célèbre, très célèbre test de Turing. Je ne sais pas s'il faut encore le mentionner tant il est connu maintenant. Voilà, si finalement vous remplacez un être humain par une machine, je fais de manière très très courte, hein, très brève, et que la personne qui dialogue, humaine, n'arrive pas à faire la différence, c'est donc que. Mais c'est donc que quoi? D'accord? Donc ça, c'est une première mesure, c'est-à-dire basée sur l'illusion. On ne se demande pas à la rigueur si cette machine est intelligente. C'est-à-dire, du moment qu'elle arrive à vous tromper, à faire aussi bien, c'est que elle arrive à simuler ses capacités d'intelligence. Les a-t-elle? C'est une autre question. Bon, ensuite, effectivement, alors avec les outils comme ChatGPT, les LLM, Large Language Models, hein, qui en forment le noyau, toute la communauté scientifique, hein, depuis la sortie de ces choses-là, se penche sur comment est-ce qu'on peut faire des... Je veux dire, en anglais, c'est pas beau, des benchmarks, hein, des comparaisons. Et donc, là, il faut définir des axes. Hein. Alors, sur le simili-raisonnement, d'accord, ou l'habilité à faire des mathématiques, ou à tenir des constructions logiques, ou à baratiner, tout simplement.
Oui, parce que, en effet, aujourd'hui, le test de Turing, aujourd'hui, les IA sont capables de le remplir. On sait faire une imitation correcte du langage à s'y tromper, Giada Pistilli. Mais c'est en effet très réducteur d'imaginer l'intelligence humaine dans ces aspects-là. Et comme vous le disiez aussi en première partie d'émission, hein, on ne peut pas faire une machine qui peut penser, bouger en même temps. Enfin, tout l'aspect physique.
Oui, bah déjà pour reprendre le test de Turing, quelque chose de qui est souvent oublié, c'est que Turing même ne se posait pas la question de l'intelligence. Le début de son papier dit « Je souhaite faire des machines intelligentes, je ne me pencherai pas sous la question de l'intelligence parce que ça ne m'intéresse pas ». Lui, ce qu'il cherchait à faire, c'était vraiment de la simulation. Et je pense que c'est ça vraiment le mot-clé. Il voulait duper juste les humains, les utilisateurs qui étaient face à ces machines et leur faire croire qu'ils étaient face à des vrais humains. Ils ne s'intéressaient pas à définir ou à atteindre vraiment une machine dite intelligente. C'est pour ça que ça s'appelle le jeu des limitations, dans justement le paragraphe dans son papier très célèbre. Et je pense qu'en effet, elle est là toute la question. Même quand on parle de dialogue, d'échange, c'est vraiment des simulations d'intelligence et des simulations de tout ça. Donc c'est important de le rappeler. En revenant justement sur ces benchmarks, donc sur ces comparaisons d'évaluation, là où ça devient presque ridicule, j'ai envie de dire, c'est que en plus, là où les entreprises et les laboratoires, ils essaient vraiment de battre le plus possible ces benchmarks. Donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau papier, on nous dit, voilà, ça, encore une fois, c'est en tête de cette évaluation, etc. Et déjà, de un, on sait très bien que puisque ces comparaisons d'évaluation sont publiques, les systèmes d'IA sont souvent entraînés sur ces mêmes métriques, donc ce qui fausse un petit peu aussi le résultat final. Mais en plus, je pense qu'on dit aussi que si la fin ultime, c'est justement d'aller battre le plus possible des métriques, c'est de faire en sorte que juste ça ait les meilleures métriques possibles, ça n'a plus beaucoup de sens en fait de la raison première pour laquelle on développe ce système d'IA à la base.
Et puis il y a le test par par rapport à tous ces tests de justement d'évaluation, le fameux test du café souvent attribué au cofondateur d'Apple, Steve Wozniak, qui avançait que l'IA générale serait atteinte lorsqu'une machine pourrait entrer dans la maison d'un inconnu et préparer une cafetière. Mais tout ce bruit autour de l'IA générale qui n'existe pas encore ne serait-il pas en train d'invisibiliser des problématiques éthiques et sécuritaires autour de l'intelligence artificielle? Restez à l'écoute. Pink Floyd, Welcome to the Machine, en direct sur France Culture, car nous parlons d'intelligence artificielle sous toutes ses nuances, d'IA faible et puis de l'IA forte et générale qui est encore hypothétique. On en parle avec nos trois invités du jour. Diada Pistelli, philosophe spécialisée sur l'éthique de l'intelligence artificielle et éthicienne de l'IA chez Hugging Face. Jean-Gabriel Ganassia, professeur d'informatique à la Faculté des Sciences de Sorbonne Université, membre senior de l'Institut Universitaire de France, et Axel Sipel, ingénieur des mines, auteur conférencier dans le domaine de l'IA. Alors si on imagine une future IA forte, capable de tout faire comme nous, il faudrait qu'elle soit capable de faire un très grand nombre de gestes du quotidien. Ouvrir une porte, attraper un verre d'eau, saisir un paquet de chips. Et pour cela, il lui faut un corps physique. Mais utiliser les progrès récents de l'IA dans le domaine de la robotique n'est pas simple. Et on en parle avec vous, Loïc Dutoit, bonjour.
Bonjour Natacha.
Pour le reportage du jour, vous vous êtes rendu à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique à Paris, où ils essayent de tirer profit des dernières avancées de l'IA pour la robotique.
Oui, et l'idée c'est de le faire en hybridant un grand modèle de langue, ces fameux LLM que ChatGPT a rendu célèbre, avec le modèle par renforcement qui est habituellement utilisé pour la robotique. C'est ce que fait Salim Aissi, doctorant à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique, dans le cadre de sa thèse soutenue par le projet Pilar. Pour cela, il est encadré par Laure Soulier, maîtresse de conférences au sein de l'équipe Machine Learning and Information Access. J'ai pu les rencontrer tous les deux à leur laboratoire où ils entraînent leur modèle avec une simulation virtuelle dans laquelle un robot se déplace dans une cuisine. Et comme vous allez l'entendre, la première chose qu'on demande au robot, c'est qu'il aille se faire cuire un œuf.
Mettre un œuf dans un frigo. Voilà, on joue avec ça en fait. Donc là, on est devant un simulateur. Donc l'objectif, un des modèles qu'on est en train de construire, c'est d'arriver à faire de la planification, c'est-à-dire prévoir quelles sont les actions qu'un robot doit faire quand on lui demande d'effectuer une tâche. Donc là, en l'occurrence, mettre un œuf dans un frigo. Et donc on a un simulateur où on va simuler des images qui vont représenter une cuisine, où on va avoir un évier, un frigo, des placards et puis différents objets. À partir de là, on va avoir un modèle qui va identifier l'image, identifier quels sont les objets qui sont dans l'image et lui demander justement de prendre l'œuf et de l'amener dans le frigo. Et donc il va nous générer une séquence d'actions, dont la première action qu'on voit qu'il génère, c'est aller devant l'évier, donc là on y est. Et donc, au fur et à mesure, on va pouvoir évoluer dans cette scène. Donc, avec un modèle qui va nous décrire qu'est-ce qu'on voit dans l'image. Et à partir de là, il va nous dire, ben, prends l'œuf qui est dans l'évier. Et donc, on va avoir un simulateur qui va nous générer l'image suivante.
Donc là, il y a Salim qui demande au robot de passer à l'étape suivante.
Donc l'idée ici, c'est de prendre l'œuf, de le réchauffer et de le mettre dans le frigo. Donc là, l'agent, donc notre robot, a pris l'œuf. Maintenant, il va se diriger vers le micro-ondes. Et on a aussi le modèle nous s'expliquer ce qu'il voit. Donc là, par exemple, il nous dit que le micro-ondes est fermé. Et on peut voir dans l'animation que voilà, il a pris l'œuf, il l'a mis dans le micro-ondes, il l'a réchauffé. Et maintenant, l'action a été faite. Donc l'action s'exécute automatiquement dans le simulateur. Après ça, ce que propose notre agent, donc notre robot, est d'aller vers le frigo. Quand on exécute dans la simulation, il dit que le frigo, il est fermé. Et l'action que va faire notre robot, c'est d'ouvrir le frigo. Ça s'exécute dans notre simulation. Et la dernière action qu'il va faire, c'est mettre l'œuf à l'intérieur du frigo. Et une fois que c'est fait, notre simulateur a dit qu'on a réussi la tâche. Et maintenant, il nous donne une récompense qui est de plus 1.
Ça, c'est la fameuse récompense que le modèle d'apprentissage par renforcement va fournir au modèle d'intelligence artificielle, donc qui inclut à la fois l'apprentissage par renforcement et le modèle de langue, pour spécifier que la tâche a été réussie et donc que ça s'arrête.
Là, la principale question que je me pose, c'est qu'on voit sur l'écran qu'à chaque fois, le robot réussit la tâche, tout se passe parfaitement. Du coup, ça sert à quoi exactement de simuler ça si à chaque fois ça fonctionne ?
Justement ici, on montre notre robot après apprentissage. Donc le problème avec les modèles de langue, c'est qu'ils ont été entraînés sur de grands corpus de données textuelles, donc ils arrivent à générer du texte cohérent, mais le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas la physique du monde. Donc avec le simulateur, c'est on a appris cette physique du monde, et on peut refaire le test ici avec un modèle qui n'a pas appris cette physique du monde, et on peut voir qu'il va générer des actions aléatoires, qu'il ne pourra pas résoudre la tâche. Donc ça, c'est la même scène où on a notre évier avec un œuf, une bouteille de vin à côté, une pomme, etc. Donc la tâche demandée, c'était la même que tout à l'heure, c'était de réchauffer l'œuf et de le mettre dans le frigo. Donc c'est la même scène, c'est juste le modèle, ici c'est avant apprentissage, donc l'ancrage physique qu'on avait fait durant l'entraînement avec l'apprentissage par renforcement, là, il n'est pas présent. Et on voit qu'ici, par exemple, l'œuf est à côté de lui, mais l'action qu'il dit, c'est aller vers le placard. Ici, il est en train de tâtonner dans l'environnement.
Oui, là, on voit qu'il fait n'importe quoi. Il a ouvert un placard.
Voilà. Ouais. C'est pour ça que c'est nécessaire, cet ancrage physique. Parce que si on n'a pas ça, les robots vont commencer à tâtonner aléatoirement. Et au début de l'entraînement, c'est ce que faisait notre robot. Donc, il tâtonnait jusqu'à ce qu'il trouve les bonnes actions et apprendre comment résoudre les tâches. Et si on faisait ça sur un robot réel directement et on passe pas par la simulation, on pourra avoir par exemple des casses, parce que si on met directement dans le robot dans une cuisine, rien ne nous garantit que le robot va faire des choses qui sont, on va dire, concrètes, sans pour autant détruire, on va dire, notre cuisine.
Oui, c'est un peu dur de prédire ce qu'il va faire, en tout cas, c'est ça?
Exactement, exactement, c'est exactement ça.
Et pourquoi on passe aussi par une simulation?
Ça, c'est la problématique, justement, de pouvoir brancher des modèles sur des robots et d'avoir de la perception à la fois de haut niveau et de bas niveau, que ce soit la sémantique, puisque là, on est juste sur des actions à attraper l'œuf, ouvrir le frigo, mais en fait, on n'est pas en train de dire comment doit se positionner la main pour attraper l'œuf et comment doit se positionner la main pour ouvrir le frigo, et on n'est pas encore arrivé à ce stade. Alors il y a d'autres travaux qui s'intéressent justement plus à ces perceptions de bas niveau, mais hybrider à la fois la perception de bas niveau et de haut niveau, c'est un gros travail en soi, et peut-être que Salim, d'ici la fin de sa thèse, n'aura pas tout fini encore.
D'accord, oui, donc là, dans la simulation, quand il prend l'œuf, c'est
hypothétique, c'est juste, il y a une image qui fait que l'œuf est devant, mais en fait, on n'a pas donné les commandes qui font avance le bras sur telle distance, ouvre ta main de tel diamètre, attrape-la avec une telle force, etc. Et donc nous, pour l'instant, sur cette thèse, on ne s'occupe pas de ça. Il y a une autre thèse en parallèle qui s'occupe justement de ces données à plus bas niveau, de cette perception à plus bas niveau. Et ils discutent ensemble, ils travaillent, mais à hybrider ces deux sémantiques, c'est quelque chose de compliqué. Et en plus de ça, là, on est dans une cuisine. Alors, des fois, on peut varier un petit peu les environnements, mais si on la met sur une chaîne en agronomie ou en industrie agronomique, justement, pour traiter et mettre dans des bacs des fruits ou des légumes ou ramasser, on va devoir réentraîner le modèle pour qu'il s'adapte à ce nouvel environnement puisqu'il n'a pas les connaissances. Et là, tout l'enjeu, justement, c'est qu'il arrive à s'adapter à ces nouvelles connaissances sans oublier la partie d'avant, puisque si c'est ait une intelligence artificielle forte, il doit être capable de revenir dans n'importe quelle situation et de pouvoir s'adapter. Et là, c'est quelque chose qui est très compliqué aussi. L'intelligence artificielle forte, c'est pouvoir réaliser des tâches très variées, mais à la façon d'un humain, et toutes les tâches qu'un humain est capable de faire. Et donc là, on est juste en train de réaliser une petite action qui est prédire la prochaine action étant donné un but, mais le modèle n'a pas ce raisonnement, n'a pas cette émotion, et si on lui demande de faire d'autres choses, il ne sera pas forcément capable.
Là, on voit que l'IA forte, on en est loin.
On progresse, mais en fait, il y a plein de micro-détails, en fait, pour arriver à avoir un vrai robot intelligent qui peut imiter l'homme. Je ne sais pas s'il arrivera à l'égaler, mais qui essaye de l'imiter. Dans le sens, nous, on n'a pas conscience de toutes les actions et tout le processus qu'on met en place pour réaliser un geste. Et en fait, tout ça, il faut qu'on arrive à l'intégrer dans les modèles, et c'est très compliqué.
Merci Loïc Dutoit pour ce reportage. Alors, l'IA forte comme ça, on progresse, Jean-Gabriel Ganassia?
On l'a dit tout à l'heure, c'est un peu une fiction, l'IA forte. Hein. Et d'ailleurs, dans le reportage, on le voit bien. Et moi, ça m'évoque deux points. D'abord, on l'a vu tout à l'heure, Turing. Lorsqu'il écrit son article en 1950 sur ce qu'il appelle « intelligent machinery hein, », il se demande est-ce qu'une machine peut penser. Et il va donner un exemple de ce qu'on pourrait appeler penser pour une machine. Il n'essaye pas de définir l'intelligence, mais quelle tâche. Et il réfléchit à plusieurs tâches. Et il se dit, on peut avoir des tâches comme celles qu'exécute ce robot, mais qui sont extrêmement difficiles parce qu'il faut plonger la machine dans l'environnement. Et là, il dit, bon, dans un premier temps, on ne va pas y arriver. Et donc, il va s'intéresser à des activités qui n'ont pas de connexion directe, il n'y a pas de perception. Et c'est pour ça qu'il imagine comme possibilité la cryptographie, mais ça ne parlerait pas à grand monde. Il pense à la traduction automatique, il pense au jeu. Et d'ailleurs, la première version du test de Turing dans son article de 48, c'est un jeu d'échecs. Et puis ensuite, le langage, le dialogue, et c'est ce fameux jeu de limitation. Alors, il faut raconter en détail, hein, parce que c'est l'idée que c'est pas que la machine est indiscernable. Il dit, on est dans une situation, il y a trois personnes, un homme et une femme. L'homme imite la femme, il y a un interrogateur qui pose des questions. Et puis ensuite, on remplace à l'interrogateur l'homme qui imite la femme par une machine qui imite l'homme qui imite la femme. Et il dit, bah, pendant un certain temps, là, si la machine est réussie à imiter la pensée, eh ben, il doit pouvoir tromper l'interrogateur. Donc c'est pas, on ne peut pas dire la machine a réussi le test de Turing. C'est une expérience de pensée qu'il réalise. C'est le premier point. Et donc vous voyez qu'on est exactement dans le même contexte et donc ben, on se pose les mêmes questions aujourd'hui que Turing se posait il y a plus de 70 ans. Puis la deuxième chose, c'est que je crois qu'il ne faudrait pas donner l'impression aux auditeurs que les machines vont remplacer les cuisiniers. En revanche, je pense qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle dans le domaine de l'alimentation de multiples façons. D'abord, pour avoir une alimentation plus équilibrée. Hein, moi, j'ai travaillé sur la numérisation des données de l'alimentation pour détecter les allergènes, pour détecter sa trace carbone, hein, essayer d'avoir une alimentation plus responsable. Et puis surtout, hein, pour faire des recettes de cuisine, hein, et pour aider lorsque on a une recette, mais qu'on n'a pas tout à fait les ingrédients, à modifier la recette de cuisine. Alors moi, je suis un cuisinier du dimanche, je trouve que c'est passionnant et qu'il y a énormément de choses à faire avec l'intelligence artificielle qui ne remplace pas le cuisinier, mais qui vous aide à mieux cuisiner. Mais
pour compléter, pour prolonger ce que vous êtes en train de dire et pour compléter ce qu'on vient d'écouter dans ce reportage, Giada Pistelli, en fait, si on fait de la prospective, pour qu'une intelligence artificielle devienne générale, il faudrait qu'elle ait le sens de l'expérience, donc.
Exactement. Il faudrait qu'il soit capable vraiment d'adapter son expérience à chaque fois à de nouvelles situations et surtout à l'imprévu, l'imprévisible, ce qui est un peu aussi ce qui nous rend humains et même d'autres mammifères, d'autres animaux évidemment, d'autres vivants. Et elle est là toute la complexité. Ce qu'on a entendu, ce qui est frappant dans le reportage, c'est justement des gestes comme attraper un œuf, qui est quelque chose de délicat, mais à la fois si on sait bien l'attraper au de bord, on sait que c'est quelque chose qui peut être aussi très dur. C'est quelque chose d'inné qu'on a parce que on apprend que un œuf peut être délicat, etc. Alors que la machine, elle n'a aucune connaissance de tout ça et aucune physique aussi. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment... Et aussi, par exemple, l'environnement cuisine, si on veut le mettre dans un autre environnement, bah, il faut tout réapprendre à nouveau. Donc, moi, la question que je me pose à chaque fois, que je pense que c'est la question aussi fondamentale, après, évidemment, pas pour la recherche, parce que c'était toujours bien de faire de la recherche, mais à quoi bon ça sert, en effet, tout ça? Qu'est-ce qu'on doit en faire, finalement? Parce que si on s'imagine, en effet, d'avoir un petit robot dans la cuisine, je ne sais pas si tout le monde serait d'accord avec ça. Surtout si on commence à avoir avoir aussi des semblances un peu humaines. Il y a une sensation aussi qui est décrite comme étant la vallée de l'étrange, où en effet, chaque fois qu'on est face, par exemple, devant un robot ou un androïde, quelque chose qui ressemble de plus en plus, ou alors qu'on est en train de discuter, de dialoguer avec un agent conversationnel, mais qui a des semblances de plus en plus humaines, en fait, l'échange se passe de manière très fluide, mais d'un coup, on peut tomber dans cette situation, en effet, de dérangement, où on se dit, on n'est pas tout à fait à l'aise, qu'est-ce qui se passe? Et je pense que, en tout cas, niveau culturel et de société, en tout cas en Occident, je ne sais pas si on serait prêt vraiment à avoir tous un petit robot chez nous. Pourquoi je dis culturel? Parce que, par exemple, en Asie, comme au Japon ou en Chine, surtout au Japon, où on voit aussi des lames, de l'esprit un peu partout, ils accueillent, par exemple, la robotique au sein de leur vie et de leur sphère privée de manière très différente. Et ça, aussi, au point de vue anthropologique et sociologique, c'est très intéressant à remarquer.
Je reviens, je quitte les robots pour revenir sur la recherche fondamentale en intelligence artificielle. Vous venez de dire en plus quelque chose de très intéressant, c'est que réagir à l'imprévu, ça aujourd'hui c'est quelque chose qu'on ne sait pas du tout faire. Axel Sipel, si on doit pareil imaginer les étapes à venir, les gaps technologiques à franchir pour arriver à une intelligence artificielle générale, à une conscience artificielle, que faire ?
C'est la question à un milliard. Enfin, un milliard maintenant, ce n'est plus grand-chose, compte tenu des investissements annoncés par nos amis américains récemment. Alors, en fait, je ne vais pas m'en tirer par une pirouette, ça va quand même ressembler à ça pour les auditeurs, sans doute. Mais on n'en a pas la traître idée. On n'en sait rien, c'est-à-dire que ce qui est recherché, je suis d'accord avec toi, Djada, la question c'est quand même pourquoi ? Qu'est-ce qu'on veut faire de ces robots ? On a besoin d'esclaves personnels, c'est ça le problème. La meilleure manière de fabriquer une IA forte, c'est la procréation. Voilà. Le problème, c'est par contre, évidemment, vous ne pouvez pas trop contrôler ce qui va se passer. Est-ce que c'est ça le problème ? Vous voyez, c'est un peu ces réflexions que ça suscite chez moi. Alors, si je reviens sur la partie technique... Donc on a déjà pas mal parlé sur l'intelligence, alors qu'est-ce que c'est ? Difficile à définir, terme polysémique, etc. Et puis quant à la conscience, c'est vrai qu'il est toujours intéressant là, dans le reportage, on dit alors l'IA forte, oui, quelques micro-détails à régler encore, mais ça arrive, alors qu'on n'a pas le traître bout du commencement de l'affaire. Personnellement, je trouve que c'est plutôt heureux pour notre espèce. Cela dit, ça n'empêche pas de chercher. Si on revient sur cette histoire de différence entre l'IA forte, qu'on a définie tout à l'heure, et l'intelligence artificielle dite générale, dont la définition a quand même été largement rappelée par Djada tout à l'heure aussi, on pourrait effectivement se dire, abaissons un peu nos exigences. On n'a pas besoin d'un robot qui a une conscience, en tout cas pas pour l'instant. Et en revanche, j'aimerais un robot pour aller faire mes courses à ma place, parce que vraiment, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas beaucoup. Et donc, effectivement, il faudrait qu'il puisse descendre les escaliers, se diriger dans la rue, ne pas marcher sur le chien de la voisine, etc., etc. Aller faire les courses, ne pas se faire avoir si jamais il manque un euro à la caisse, etc. Revenir avec les courses, c'est-à-dire ne pas avoir oublié les sacs au supermarché et tout ça. Et en fait, quand on réfléchit à ce truc-là, si on le fait nous, est-ce qu'on qualifierait d'aller faire les courses au supermarché comme un acte vraiment intelligent, quelque chose qui est un exemple de la puissance de l'esprit humain? Non. On trouve ça assez rébarbatif, bête, à peu près tout le monde peut le faire et tout ça. Et donc, un robot qui serait capable de faire ça, ce serait une prouesse technologique, mais il ne serait pas vraiment intelligent. Ce serait peut-être ça, l'IA générale, d'accord ? Voilà.
En tout cas, pendant qu'on vous emmenez aussi une autre réflexion en piste, c'est que pendant qu'on débat des hypothétiques risques d'une intelligence artificielle générale, est-ce que le risque, finalement, avec ce fantasme ou la panique que suscite l'IA forte ou générale, est-ce que le risque, ce n'est pas justement de nous détourner des dangers réels et actuels avec les IA qui existent déjà aujourd'hui, Jean-Gabriel Ganassia ?
Alors, tout à fait, peut-être. Avant cela, c'est un peu ce qu'a dit Alex, la notion de conscience est très polysémique, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, est-ce que c'est une machine sur laquelle on projette une conscience ? Ça, on le réalise déjà. Est-ce que c'est une machine qui s'analyse ? Ça, on le réalise déjà. Est-ce que c'est une machine qui éprouve des émotions, qui a une volonté propre ? Alors ça, c'est un mystère. Et on ne sait pas très bien, d'ailleurs, quelle volonté elle aurait. Alors oui, bien sûr, ces grandes déclarations des géants, on parle aujourd'hui des titans de la tech, ce qui est joli comme terme, sont là souvent pour nous détourner des vrais problème. Ils nous disent, il y a un danger, c'est terrible. Elon Musk nous parle du risque existentiel. L'humanité arrive à sa fin. Mais En réalité, ce qu'il est en train de faire, c'est pas la fin de l'humanité, c'est qu'il est en train de prendre le pouvoir sur les hommes. Je crois que les vrais enjeux aujourd'hui sont des enjeux politiques. C'est que ces grands acteurs du numérique prennent un poids de plus en plus important. Du moins, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Alors, on a vu bien sûr que les choses sont pas aussi simples que cela et qu'il suffit que les Chinois trouvent des méthodes un tout petit peu moins gourmandes en énergie et surtout en puissance de calcul pour que tout d'un coup, tout cet édifice s'écroule hein, comme un château de cartes. Donc ça, c'est ce qui est vraiment passionnant, hein, ce qui montre que, je crois qu'on l'a déjà dit au début, l'intelligence artificielle, c'est jamais tout à fait ce qu'on avait imaginé. Et donc c'est à la fois, bien sûr, ce sont des machines qui essayent de simuler des comportements, mais c'est aussi une histoire technologique assez incroyable qui est en train de se dérouler sous nos yeux.
Giada Pistelli, hein, quels sont justement ces grands nombres de questions éthiques que l'IA forte pose?
Déjà, en effet, on a essayé de définir ce que c'était l'IA générale, l'IA forte, etc. Je pense que, en tout cas, de l'IA, si on peut imaginer de toute façon qu'une IA forte, ce soit de toute manière une IA avec laquelle on peut dialoguer, on peut échanger. Moi, les dangers que j'ai comme ça en tête, ce sont déjà des risques de manipulation, des risques de désinformation. On s'est beaucoup moqué de la pauvre dame qui est tombée sous le piège de quelqu'un qui a fait croire qu'elle était en train d'échanger avec Brad Pitt. Ça, c'est un vrai risque de manipulation. Et d'ailleurs, ils se sont servis de systèmes d'intelligence artificielle qui existent aujourd'hui, qui sont des IA faibles ou je ne sais pas comment on veut les définir. Donc déjà, il y a tout ça. Il y a des vrais enjeux. Moi, je m'intéresse énormément justement à tout ce qui est IA conversationnel, agent conversationnel. Et c'est vrai qu'il y a les humains, ils sont en train de former des vrais liens affectifs avec ces agents. Donc l'idée que les questions qu'on se pose d'un point de vue d'éthique, c'est encore une fois, quel est le rôle dans tout ça? Qu'est-ce que ça va produire au sein de la société et pour ces humains? À quoi vont ressembler, en fait, c'est les interactions, par exemple, entre humains d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, alors qu'on a l'habitude d'échanger quand on a un problème, on échange avec ChatGPT ou d'autres, sachant qu'ils sont tout le temps d'accord avec nous, ils nous disent tout le temps comment on est super, qu'on a toujours les meilleures idées, ils sont tout le temps disponibles. Moi, c'est quelque chose qui me fait un peu peur, parce que les humains, c'est pas ça. Les humains, c'est échanger des idées, ils n'ont pas tout le temps d'accord l'un avec l'autre. On a un langage qui est très riche, alors que c'est lamentable de voir LinkedIn, rien qu'aujourd'hui, de voir que tout le monde publie, surtout en anglais, des posts qui ont l'air d'être carrément générés. Donc, on a une espèce d'aplatissement aussi un peu de la richesse du langage, parce que ce sont des outils qui peuvent être très utiles, par exemple, pour faire face, je ne sais pas, à la syndrome de la page blanche. Mais moi, je pense qu'il y a aussi une question d'acceptation au sein de la société et au degré de confiance qu'on devrait donner à ces IA ou pas. Et OK, il faut peut-être les accueillir, en effet, au sein de notre quotidien, de nos vies privées, comme le disait aussi Jean-Gabriel, pour faire les choses d'une meilleure manière. Mais moi, je porterai vraiment attention à quel rôle et quelle importance on va lui donner, qu'on va donner à ce système dans notre relation à l'autre entre humains. Voilà.
Axel Cipel, pour tourner et finir ce tour de table.
Peut-on vraiment conclure, en fait, si seulement on pouvait, mon dernier ouvrage, vous l'avez cité en début d'émission, Voyage au bout de l'IA, c'est une forme de clin d'œil. Peut-on vraiment aller au bout? Quand on est au bout, est-ce qu'on peut en venir? Enfin voilà, c'est ces questions-là. Alors effectivement, la question éthique, elle est très importante et de manière assez étonnante aussi dans le monde de l'entreprise. Pourtant, les entreprises sont voilà, c'est rarement des mécènes. Il y a des entreprises mécènes qui font des donations, etc. Mais c'est pourtant pas une question qui est très propre à la sphère commerciale. Et pourtant, il y a une sorte d'éthique washing, on pourrait dire ça comme ça. Quand vous dites que vous faites de l'IA, d'accord. Quand vous faites de l'IA avec éthique, c'est quand même plus noble. Mais qu'est-ce que c'est que faire de l'IA avec éthique? Est-ce qu'on peut faire ça vraiment sérieusement? L'éthique, c'est une notion philosophique sur laquelle beaucoup de philosophes moralistes, effectivement, ont écrit. Et c'est pas si simple que ça, vous voyez. Donc, en effet, et c'est très coûteux quand on veut bien faire les choses. Donc le questionnement éthique, il est fondamental, mais il faut aussi savoir le traiter de la bonne manière.
Voilà. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandre Morales, mais pour prolonger l'écoute, je renvoie nos auditrices et nos auditeurs vers votre ouvrage, Axel Cipel, Voyage au bout de l'IA, fraîchement récompensé par le prix Robert Val, et votre ouvrage, Jean-Gabriel Ganassia, L'IA expliquée aux humains, paru au Seuil. J'annonce aussi tout de suite que le vendredi 6 février, France Culture prépare toute une journée spéciale sur l'intelligence artificielle, sous toutes ses coutures. Merci à vous trois. Tout de suite, un tout autre sujet, que manger les australopithèques? Réponse, c'est la chronique avec science.
Nos ancêtres mangeaient-ils de la viande? C'est une question importante, hein, puisque la viande, c'est tout un symbole. Un vrai homme, ça mange de la bidoche. Et cet imaginaire viriliste nous renvoie à l'époque fantasmée des chasseurs-cueilleurs, et plus avant encore, puisque de toute façon, on a toujours mangé de la viande. Mais cette affirmation est-elle vraie? Eh bien, probablement pas. En tout cas, une nouvelle étude parue dans Science affirme que nos très probables ancêtres, les australopithèques, devaient avoir un régime alimentaire plutôt végétarien. Ce terme d'australopithèque regroupe plusieurs espèces qui ont vécu en Afrique il y a environ 4,2 à 2 millions d'années et dont l'une est possiblement à l'origine du genre Homo auquel appartient l'espèce humaine. Alors, vous vous en doutez, pas simple de savoir ce que mangeaient les êtres qui peuplaient la Terre il y a des millions d'années. On peut observer leur anatomie, bien sûr. Il y a une méthode dont on a parlé précédemment dans une chronique et qui consiste à observer les micro-rayures à la surface des dents, mais ce n'est pas suffisant. Pour avoir plus d'informations, les chercheurs peuvent aussi faire des analyses isotopiques. La matière est composée d'atomes qui se distinguent par leur nombre de protons, de neutrons et d'électrons. Et un type d'atome peut avoir des neutrons en plus ou en moins, ce sont les isotopes. C'est l'analyse du rapport entre ces différents isotopes qui est intéressante et c'est ce qu'on regarde quand on parle de carbone 14, par exemple, qui est très utilisé en archéologie. Sandrine Pratt est paléoanthropologue, directrice de recherche CNRS au Musée de l'Homme à Paris.
On va faire ces analyses sur l'émail dentaire et là, ça va indiquer ce que l'individu mangeait au début de sa vie. Et donc jusqu'à cette étude, en fin de compte, le type d'analyse isotopique qui ont été menées sur les périodes très anciennes, sur ces dents, c'était plutôt des analyses isotopiques du carbone, qui permet d'indiquer quel type de plante est consommée, si c'est fruits, feuilles ou grandes herbes tropicales, ou les animaux mangeant ces plantes. Mais avec ce type d'analyse, on n'arrivait pas à identifier, à tester la part carnée dans l'alimentation, et notamment le niveau trophique. Et là, c'est une première, en fin de compte, sur l'utilisation d'un nouveau type d'analyse isotopique qui est basé sur l'azote. Donc là, c'est vraiment, d'un point de vue méthodologique, une grande avancée pour comprendre le niveau trophique de ces individus, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont plutôt herbivores, omnivores ou carnivores.
Cette technique qui combine l'analyse du carbone et de l'azote a déjà été utilisée, mais sur des temps plus récents, jusqu'à quelques dizaines de milliers d'années, et sur des os. Le problème, c'est que passé cette période, l'azote a tendance à disparaître des os. Alors les auteurs de cette publication ont mis en place une nouvelle méthode pour extraire l'azote enfoui dans les dents, et elle datait ici de 3,5 millions d'années. Alors comment fait-on pour savoir ce que mangeaient les australopithèques? Eh bien, on compare tout simplement le rapport azote-carbone dans les dents dominine fossile ici, Australopithecus africanus, à celui des dents d'autres animaux de la même période, des antilopes ou des grands prédateurs comme les félins ou les hyènes par exemple. Cette comparaison permet de créer une sorte d'échelle des régimes alimentaires, le niveau de consommation de viande correspondant à une valeur spécifique de ce rapport azote-carbone. Et ensuite, on peut tout simplement replacer nos spécimens dans la chaîne.
Cette étude est très intéressante parce qu'elle montre que dans le régime alimentaire de ces Australopithecus africanus, il n'y avait pas du tout ou très peu de part carnée, très peu de viande, et qu'au contraire, il y avait une grande flexibilité alimentaire, une alimentation très variée, à la fois avec des fruits, des feuilles, ici plutôt de zones boisées, mais également plutôt des plantes adaptées au climat chaud et sec, et comme certaines graminées. Et surtout, donc sur ces 7 individus, ils n'ont pas un signal isotopique identique. Et donc certains ont peut-être plus mangé des légumineuses et d'autres sans doute ont peut-être intégré dans leur alimentation des invertébrés comme les termites qui sont une source de protéines qui est accessible dans la savane et qui, en termes de signal isotopique, pourrait correspondre aux données issues de cette étude.
Les scientifiques ne vont pas s'arrêter en si bon chemin et ils vont reproduire leur protocole sur d'autres spécimens pour tenter de déterminer quand et où apparaît l'alimentation carnée de nos ancêtres. On observe dans le registre archéologique des traces de découpe il y a environ 2 millions d'années, donc potentiellement une augmentation de la part carnée de l'alimentation. Et certains paléontologues relient cette augmentation à l'apparition du genre Homo et à une croissance du volume du cerveau. Mais rien n'est encore sûr et cette nouvelle méthode pourrait bien nous apporter des réponses.
Merci Alexandre pour votre chronique, merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Noémie Eliazor, Antoine Beauchamp, Bruno Sansini, Loïc Dutoit, Ali Ruyère-Thompson. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Alex Dang. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.